RCF.
RCF Isère, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
La valeur de l'homme, écrire Paris. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de La valeur de l'homme. Écrire Paris, décrire Paris, faire l'histoire de Paris sont autant de défis pour le romancier comme pour l'historien. Paris, ville, monde, capitale du XIXe siècle, écrivait Walter Benjamin, tant il semble que la cité se réinvente en profondeur au XIXe siècle. Le Paris de ce siècle est celui qui accueille presque simultanément deux révolutions et une commune, Jules Vallès et Adolphe Thiers, l'extension de la ville en 1860 et l'haussmannisation. Paris, ville palimpseste, ville des flâneurs, poétique, industrielle, ville des halles et des brasseries, ville romantique des bords de Seine, ville des manifs et de mai 68. La richesse de l'histoire parisienne paraît écraser toute tentative d'épuisement de ces lieux. Peut-être alors que la meilleure manière d'écrire Paris est de le faire par le biais de la fiction, de la rêverie, de l'impressionnisme. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Arthur Bernard, historien de Paris, qui a signé récemment une œuvre d'anticipation qui s'appelle Paris en 2040, sortie en 2012 chez Parigramme et qui a préfacé le très beau livre de photographie édité par Parigramme également en 2013 et qui s'appelle Paris minuit. Bonjour Jean-Pierre Arthur Bernard.
Bonjour Emmanuel.
Alors Jean-Pierre Arthur Bernard, vous êtes politiste, historien des idées, bibliophile, romancier. Vous avez marqué des générations d'étudiants à Sciences Po Grenoble par votre érudition, votre esprit libre et critique et bien sûr votre cours d'histoire des idées politiques de première année qui faisait plonger les étudiants dans le grand bain des grands textes dès leur arrivée dans l'institution. Dans une vie antérieure, vous avez travaillé sur le Parti communiste et la question littéraire, puis vous avez pris le goût de Paris et vous avez publié plusieurs ouvrages sur la capitale. Vous êtes aussi le fondateur de la revue Silex qui est parue de 1977 à 1985 et enfin... Sous le nom d'Arthur Bernard, vous avez publié plus d'une dizaine de romans, dont la trilogie des Gabi chez Champvallon et un livre OVNI qui s'appelle Ernest Ernest. Bienvenue. Alors, j'aimerais qu'on commence par une idée que vous développez, qui est l'idée au fond de la ville imaginaire, ce que vous appelez dans Paris en 2040 la ville mentale, par opposition à la ville réelle ou la ville natale, c'est-à-dire celle qu'on a dans l'esprit. Et donc vous imaginez un peu ce Paris de 2040. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour ce Paris du futur? Comment on se projette? Qu'est-ce que vous avez écrit là-dessus?
Moi, j'ai surtout écrit sur le passé. Le problème avec Paris, c'est quand on écrit sur l'avenir, ou qu'on croit écrire sur l'avenir, je n'ai pas étudié les textes de prospective, les textes un peu sérieux de projection d'un Paris en 2040 ou en 2100, comme ils fleurissent en particulier en ce moment ou depuis toujours. Mais j'ai pas mal étudié les utopies qui ont Paris comme décor, les uchronies, puisque une utopie qui est dans le temps, c'est une uchronie, une utopie qui est dans l'espace, c'est une utopie. Et j'ai même dans ce livre les deux Paris, qui est mon pendant de livres d'histoire, au roman Paris en 2040, paru quelques années plus tôt. Je me suis aperçu qu'en fait, tout ce qui projetait un Paris futuriste, que ce soit en 2040, en 2050 ou en 4450, parce qu'il y a des 5570 ou des choses comme ça, sont en fait des paris de leur temps. On n'écrit que de son temps, c'est ce que disait Marc Bloch, que de son temps, et que pour son temps. Et en fait, le problème avec Paris, c'est que le passé, le présent et le futur sont tellement imbriqués, le mythe est tellement imbriqué dans le réel et le réel dans le mythe, surtout depuis le 19e, mais aussi déjà, peut-être on en parlera un peu, dès la fin du 18e avec deux auteurs, Rétif de la Bretonne et Louis-Sébastien Mercier. D'ailleurs, je vais dire un mot dans un instant de lui. C'est la dissociation entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire n'existe pas. C'est vraiment une question d'angle, une question de déplacement. Alors, bien sûr, si on compte les balles de blé qui entrent ou qui sortent sous forme de pain, bon, ça, y a les archives de Paris, mais même les archives, j'ai peut-être tiens dans un exemple, sont empreintes d'imaginaire, de poésie, de fantaisie, pour le peu que j'en ai vu et que je l'ai fait. Donc, Paris réel, Paris imaginaire, même si en effet c'est le 19e qui fixe cette notion même de mythe de Paris, avec Roger Caillouard dans 37, Benjamin à son tour, qui est pour moi le génie absolu concernant Paris. Paris a toujours été, et dès le 16e siècle, un objet identifiable et non identifiable, et un objet profondément mythique, mythologique.
On a vraiment le sentiment...
Au sens propre.
Oui. On a vraiment le sentiment que la ville, quand même, se entre dans la modernité au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un vieux Paris, mais qui va être, en quelque sorte, écrasé ou mis un peu de côté à partir du 19e siècle, où quelque chose se produit et où même on commence à investir Paris, écrire sur Paris. Je mentionnais Walter Benjamin, mais d'autres auteurs sont possibles. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est-à-dire cette réinvention ou cette entrée dans la modernité au 19e siècle ?
Bien sûr. Alors là, beaucoup d'écrivains qui sont les... Je dirais pas les propagandistes, bon, on convient pas, mais les haut-parleurs, les parleurs de haut, et le plus profond, à mon avis, qui est d'ailleurs le modèle, le maître, le reflet dont Benjamin s'inspire le plus, c'est Baudelaire. Et c'est Baudelaire qui écrit d'ailleurs cette notion de modernité. Monsieur Constantin Guy, peintre de la vie moderne, Constantin Guy est peintre bien oublié, mais qui aux yeux de Baudelaire est plus important que beaucoup d'autres peintres, plus important que lui, parce que Constantin Guy a su saisir l'espèce d'éclair, on dirait de flash aujourd'hui, qui fait que Paris est devenu, avec la modernité, avec Haussmann d'une certaine façon, avec les démolitions, avec leur construction, avec l'industrie, avec les fumées d'usine, dit Baudelaire, aussi important, aussi grand, que les colonnes de l'Antiquité, les codes des tables des temples grecs. Pour Baudelaire, la modernité, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, qu'est-ce que la modernité, ça je ne m'y risquerai pas. Mais pour Baudelaire, la modernité, c'est quand un objet littéraire, un objet de réflexion, de poésie, d'émotion, de sentiment, et Paris en est un immense, acquiert autant de légitimité, de grandeur que les références antiques, que qu'Athènes, que Troie. Et on trouve ça aussi d'une certaine manière chez Victor Hugo, avec plus d'emphase, plus de grandeur, plus d'éloquence, quand dans la préface qu'il fait à l'exposition, au catalogue, pourrait-on dire, de l'exposition universelle de 1967, Hugo, significatif, dit qu'en fait il n'y a que quelques grandes villes qui ont compté dans l'histoire de l'humanité: Jérusalem, Athènes, Rome et Paris. Et bon, la vie de la foi, l'autre la vie de la loi, l'autre mais Paris c'est la vie de l'idée. Il faut dire aussi que Paris a été la ville de plusieurs révolutions, tu l'as dit, dont une qui est fondatrice, et qui parcourt tout le 19e, et qui déborde de la France ailleurs, et qui revient, qui circule, qui voyage. Paris voyage. Et ce voyage, seul le mythe permet de, le mythe est un peu le balai des sorcières qui permet aux images de Paris de voyager un peu partout dans le monde.
On va rester sur cette idée de la mythologie et de l'imaginaire, parce que ce qui est intéressant dans Paris en 2040, et comme dans la préface de Paris minuit, c'est qu'au fond la ville semble s'animer mystérieusement la nuit. Alors les statues se parleraient d'un bout à l'autre des rues, ou bien dans Paris en 2040, il y a cette espèce de groupe de protagonistes qui la nuit se glissent dans la vieille bibliothèque nationale, celle de l'historique de la rue de Richelieu. Donc on a l'impression que la nuit effectivement vient se superposer au jour, mais avec des activités particulières, comme si la ville renaissait très différemment pendant la nuit, une ville poétique, une ville rêvée. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Alors c'est moi, ça c'est, je dis ça sans prétention, qui est essayé à la fois dans mes livres d'histoire sur Paris, ou mes articles, mes textes historiques, et puis mes romans, pas seulement sur Paris, dans tous mes romans, Paris apparaît, disparaît, réapparaît, parce que c'est largement biographique, pas autobiographique. Paris, ça a été un peu pour moi ma seconde naissance. Je suis né au bord du Rhône. Il y a très longtemps, et j'ai renaquis au bord de la Seine à 19 ans, quand je suis arrivé à Paris pour y poursuivre mes études et les rattraper, en somme. Et ce, cette affaire de mythe, elle est capitale parce qu'elle permet de saisir Paris sous des formes qui sont partagées par tous ceux qui la traversent, qui sont éveillés. Et la notion de Paris coupé en deux, qui pour moi est très importante, et pas seulement pour la nuit, mais pour le capital et pour la révolution, pour l'homme et la femme, le prolétaire et les bourgeois, etc. Mais la coupure jour et nuit est fondamentale pour comprendre Paris. Parce que la nuit, c'est une autre ville. Mm-hmm. Paul Morand le dit très bien dans la préface qu'il fait à Paris la nuit dans les années 30. Paris la nuit n'est pas le prolongement, n'est pas l'appendice, n'est pas la queue de comète, en somme, du Paris diurne. C'est un autre Paris, quand une autre population avec d'autres. Et il y a aussi une image qui est très forte de ce point de vue-là, c'est le Paris la nuit qui se reflète dans la Seine, est un Paris immatériel. C'est la Seine qui capte le mieux, avec les lumières, l'image du Paris nocturne qui apparaît et disparaît en même temps que son flot.
On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis.
On ne le saura jamais.
L'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris.
On ne le saura jamais.
Peut-être est-il venu au coin d'une rue comme un enfant perdu, l'air de Paris. Là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'aile, est-il descendu jusqu'à nous, l'air de Paris. Toi, tu es arrivé 2000 ans après, moi je t'ai trouvé simplement, sans te chercher, devant un café crème dans le matin blême, je t'ai dit je t'aime, souviens-toi, nous étions là. Deux ombres que la vie avait réunies en plein cœur de Paris, tout endormi. On s'est aimé d'amour et depuis ce jour, tout notre passé s'est changé en avenir. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit l'air de Paris. On ne saura jamais si le même jour, l'amour vit le jour avec lui, dans l'île Saint-Louis. On ne saura jamais si l'air de Paris porte en lui tout l'amour du monde entier. Puisqu'il nous l'a donné, à quoi bon chercher, à quoi bon savoir ce que l'on ne saura jamais.
La valeur de l'homme, écrire Paris, on est en compagnie de Jean-Pierre Arthur Bernard. Dans votre préface à Paris minuit, vous écrivez, je vous cite, « La nuit happe, enveloppe et dissout ses créateurs, écharpe de brume le coin de la rue ». Alors, la rue est un moment d'inversion, on l'a dit, mais en même temps, la nuit n'inverse pas tout. C'est-à-dire que cette idée des deux Paris, on la retrouve aussi dans la nuit. Il y a la nuit des prolétaires et la nuit des mondains, il y a la nuit des ouvriers et il y a la nuit des bourgeois.
Oui, bien sûr. Paris accumule les doublements, les multiplie, ils sont sans fin, c'est un point de vue. Mais pour la nuit, c'est totalement vrai. Alors, en effet, il y a le Paris de ceux qui... Il y a eu des typologies du Parisien de nuit, du Parisien nocturne, au 19e. Il y a un Paris au gaz de Julien Lemaire, qui paraît au début de 71-62, je crois, qui écrit bien ça, qui trouve des catégories, le noctivague, le noctambule, le noctiloque, celui qui parle la nuit, etc. Comme on parle pour ceux qu'aujourd'hui on appelle les SDF ou les sans-logis, il y a une expression qui est assez forte mais belle, c'est les dors sans lit.
Ouais.
Donc, y a, et puis il y a ceux qui se promènent pour se promener simplement pour
le flâneur que Baudelaire a bien saisi
et que Baudelaire avait mis en scène. Et il y a même des Baudelaire spontanés, je dirais. Lisez un très beau livre de Simone Delattre, une historienne que tu connais, vraisemblablement.
Les 12 heures noires.
Les 12 heures noires. Ouais. Elle parle de c'est pas très d'archives, ce que moi je n'ai pas fait, donc c'était une source bien primitive que de la littérature qui est retravaillée, qui est repensée. Elle a trouvé un écho d'un jeune homme venu de Metz en 1821, Antoine Spott, souvent selon de l'oubli, c'est tout ce qu'on peut pour eux, tout ce qu'on peut pour les morts, et qui se promène dans Paris, tout seul comme ça, il a 20 ans, on l'arrête, et on lui demande ce qu'il se faisait, ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il est là, et il répond à la force de l'ordre, j'étais venu pour découvrir la beauté de Paris. Mmh. Et ça, c'est tout du Baudelaire spontané, de la part d'un jeune ouvrier, ou pour les termes ça, on ne sait rien, qui disparaît dans l'ombre, de la poussière des archives, après avoir fait sa réapparition dans une ligne du livre, du très beau livre, je le répète, de Simone Delattre. Mmh. Mais donc, bon, il y a ceux qui ne travaillent pas, il y a ceux qui travaillent, des travails et des travaux, des occupations extrêmement diverses. Mmh. Alors ça, dès le 18e, on va apparaître l'accumulation. La nuit, c'est le territoire de l'exotisme, du pittoresque. Mmh. Il y a déjà Rétif de la Bretonne, les nuits de Paris, on a fait l'inventaire. Le type qui lève des lapins en chambre, des souris, des rats, qui fait des choses bizarres, des tas de petits métiers, petites activités plus ou moins licites ou illicites, qui n'existent que la nuit. Mm-hmm. Et d'autre part, avec la modernité, des activités aussi nocturnes, parce que quand il s'agit de réparer Paris, de le remettre en marche, avec le polir les rails du métro pour les rendre accessibles, les vidangeurs.
Ouais, il y a des photos, hein, très très belles photos dans Paris Minuit.
On a du mal, on peut pas parler de ça, ça tarde trop longtemps, mais vidanger l'ordure dans un grand intestin, parce que Paris c'est un cœur, c'est les poumons.
Ouais, ce que dit Maxime Ducamp, Paris et ses organes.
Ses organes, mais c'est aussi les tripes, et les tripes se vident. Et donc il faut vider ce que les tripes ont vidé. Mmh. Et il y a des vidangeurs, une sorte de caste à part, méprisée en même temps indispensable, qui vient avec des pompes et transporter ces matières, cette péniche au bord de la Seine, et qui sert à qui après s'en va vers la banlieue où elle sert à engraisser la terre et pour produire des salades ou des légumes. Et Brassailles a néanmoins photographié les vidangeurs qui après leur travail nocturne vont
au bistrot,
manger dans un très bon restaurant. Et ils montrent surtout ce que les photos montrent, c'est la fumée, et puis il y a les halles.
Oui, alors les halles de Baltard, enfin.
Le constructeur Baltard est démoli. Moi, j'ai vu la fin des halles dans ma lointaine jeunesse à Paris, les 60.
Aussi.
Bon, toi aussi, bien que tu sois beaucoup plus jeune que moi. Mais Paris, les halles détruites ont été l'occasion. L'espace de Trou des Halles,
qui est resté très longtemps,
a été le prétexte d'un très beau film de Marco Ferreri, Touche pas la femme blanche, qui est là-haut avec Paris, mais il est transporté le massacre du général Custer par Sitting Bull dans le Trou des Halles, ce qui était assez drôle. Mais les Halles, encore dans les années 60, c'était le ventre de Paris d'Isola, l'intestin, les poumons, le sexe. À l'état pur, en même temps la viande, la boucherie, les légumes, l'image du fort des Halles qui a photographié, qui ressort bien, me semble-t-il, dans
l'ouvrage. On voit des bouchers transporter des quartiers de viande gigantesques sur leur dos.
Et c'est à la fois l'ultra-vie et la proximité de la mort. C'est toujours d'ailleurs dans Paris, c'est aussi une espèce de dialectique. Il y a deux Paris, il y a le Paris de la vie, il y a le Paris de la mort, et la mort et la vie. C'est pas de le dire comme ça, mais incarné par des images ou par des textes, c'est bien plus intéressant que ne peut le dire ici. Les bouchers transportant le quartier de bœuf, un demi-bœuf sur le dos, c'est-à-dire 100 kilos, voire plus, et avec un tamis taché de sang, et qui après vont bouffer, et puis après faire le baiser dans une prostituée dans qui remange et qui remet. Bon. C'est la la cohabitation permanente de la vie, de la mort, du répugnant et du sublime, qu'on trouve dans ce cœur de Paris, dans ce que sont les Halles, et qui a été irremplaçable et pas remplacé.
Ce qui est frappant aussi, c'est quand même qu'au fond, la nuit est un moment qui est très investi, c'est-à-dire à partir du 19e siècle, on repousse les limites de la nuit, et donc ça devient en fait un enjeu politique. La nuit devient un temps politique. Alors vous y insistez à un moment en disant que, par exemple, l'obsession du pouvoir va être d'éclairer la nuit, de montrer la puissance du politique par l'éclairage nocturne. Manière de dire aussi, au fond, les lois ne sont pas suspendues pendant la nuit. Le pouvoir est toujours là et il observe via les réverbères, les agents, parce que la nuit est réinvestie désormais par le pouvoir politique et par les citoyens.
Ça, c'est très important, en effet. Et ça commence avant le 19e siècle.
D'accord.
Ça commence avec Louis XIV. Qui s'occupait de tout. Il y a un texte pour le citer, mais il était un peu en latin qui est dans la préface, donc tu as dû le voir. Créer des lanternes dans la ville pour que, d'une part, la ville soit plus sûre, qu'on voit ce qui s'y passe. Mm-hmm. Parce que le pouvoir, c'est. Il y a une image qui revient, qui emprunte à la mythologie là, de manière claire, c'est l'image de Argos ou Argus, ou Panoptès en grec, ce géant qui a 100 yeux, mm-hmm. 100 yeux. Mmh. Et qui, dans 50, reste toujours ouvert, donc qui observe tout. Donc la métaphore du géant Argos, Argus ou Panoptès dans Paris dès Louis XIV, dès une ordonnance de 1666,
j'ai la date,
donc le roi s'occupe de ça. Ouais. Rendre Paris un peu plus lumineux. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir. Et un siècle plus tard, à la veille de la Révolution, on se plaint. On se félicite, on se plaint qu'il y ait trop de lanternes, qu'il y ait des lanternes qui éclairent la ville. Mmh. Rétif parle bien de ça, mais ceux qui loussent cette entreprise sont ceux qui veulent que tout soit visible, donc tout soit identifiable, donc tout répréhensible, tout ce qui est répréhensible, ça appréhendable par la garde, par la force publique. Et puis il y a ceux qui protestent contre cette disparition de la nuit, pourrait-on employer le mot, qui rend les choses bien plus difficiles si on a envie de disparaître, de se cacher, de commettre un délit quel qu'il soit. Et ça va se multiplier en effet avec l'éclairage. Mm-hmm. Parce que là, sous l'Ancien Régime, c'est l'huile, c'est le pétrole. Mm-hmm. Et ça va devenir autre chose. Au milieu du 19e siècle, avec d'abord le gaz. Paris au gaz. Alors on parle de nuit désenchantée. La nuit désenchantée, la nuit est purgée de ses sortilèges, de ses maléfices, alors qu'elle disait de ça aussi. Et puis ça s'accentue encore plus avec l'électricité.
Un éclairage permanent, au fond.
Un éclairage permanent. Ouais. Et qui rend fou. L'électricité.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent.
La valeur de l'homme, écrire Paris en étant en compagnie de Jean-Pierre Arthur Bernard. On a abordé cette question de l'éclairage. Ça se développe et ça s'approfondit, au fond, l'éclairage de la nuit au XXe siècle, dès le début du XXe siècle, avec, au fond, des éclairages publicitaires ou le triomphe du néon. Quelle est l'idée
Au XVIIIe, au XVIIe, au XVIIIe, et bien sûr au XIXe, l'éclairage est politique. La lanterne, d'ailleurs... on y accrochera les aristocrates.
Les aristocrates à la lanterne.
Lanterne. Et par contre, dans Les Misérables, Gavroche veut casser les lanternes. Casser les lanternes, c'est rendre l'obscurité de la ville, donc à la Révolution, en somme. Donc c'est politique. L'obscurité est politique. Par contre, avec le 20e, bien sûr, apparaît l'électricité. Donc c'est l'illumination de Paris, mais à défaut de la marchandise. De mise en scène de marchandises, dirait les sécessionnistes, si on avait le temps, on pourrait en parler longuement. Paris se court de néon, Paris se court d'événements comme l'arrivée de Lindbergh ou d'autres, ou l'éclairage. C'est l'illumination de Paris et non plus l'éclairage de Paris qu'on connaît aujourd'hui avec la Tour Eiffel lumineuse, etc. etc. Et c'est l'Italien florentin qui s'appelle. Sortant son nom aussi, Fernand Jacopozzi.
Jacopozzi.
Né en 117 et mort en 32. Qui fait apparaître donc c'est vraiment une lettre géante et ouais. qui va avoir un rôle très important la grande exposition des arts décoratifs en 1925 où cette illumination de Paris prend sa force et sa forme
et qu'on lui connaît jusqu'à aujourd'hui
ouais,
où c'est très marqué, mais l'idée est de au fond pas seulement d'éclairer mais d'illuminer.
Là, c'est tout à fait autre chose.
Alors on reste sur le Paris politique. Ce qui est quand même frappant dans le livre de photos que vous préfacez, Paris minuit, c'est que au fond les grands événements politiques que l'on connaît, qu'on apprend dans les livres d'histoire, le 6 février 34, le 17 octobre 1961, mai 68, tous ces événements ont été photographiés et sont documentés. Donc au fond ils prennent une chair particulière, et ça renvoie au fond à l'idée de Paris aussi comme espace politique, où on va battre le pavé, manifester, on investit politiquement, et tout ça est complètement documenté, avec des photos qu'on connaît mal, enfin qu'on voit pas souvent, mais qui là,
il y en a qu'on connaît beaucoup, qui sont célèbres. Mm-hmm. Bon, le lanceur de pavé de Gilles Caron,
oui.
L'étudiant en courant pour fuir le CRS
qui veut le
matraquer, dans une sorte de finale olympique du 100 mètres, ça c'est connu. Mais 34 aussi, oui, 56, les attaques de l'extrême droite contre les forteresses du Parti communiste. Ouais. Octobre 61 à Paris, ça, en plus là je m'en souviens en effet, le matraquage des Algériens au cours de ces deux nuits. Mm-hmm. Donc, et mai 68. Où ce mélange s'alterne le côté ludique, le côté kermesse et puis le côté réellement politique. Et ça, en effet, la nuit est un territoire de la manifestation, de l'émeute, sinon de la révolution.
Je voudrais qu'on dise juste un mot pour finir, parce que l'émission s'achève, de la critique adressée aujourd'hui à Paris, Paris ville musée. En un mot, Jean-Pierre Arthur Bernard, ça vaut le coup cette critique, c'est légitime, Paris ville musée.
Oui, pour moi, c'est pas une critique. Paris a toujours été une ville musée. Les premiers guides destinés aux voyageurs, on dit aux touristes à l'époque, c'est là du XVIe siècle.
Très bien.
Paris se visite, donc Paris est un musée.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Arthur Bernard. On a écouté une première chanson de Francis Lemarque, L'air de Paris 1957, et Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris s'éveille. Un merci chaleureux encore à Jean-Pierre Arthur Bernard d'avoir été avec nous dans cette émission. À très bientôt.